Vous écoutez On lit pour vous.
Un parcours matinal sans rien voir. Un texte de Catherine Houd, paru le 3 septembre 2024 dans la presse. Catherine Houd, chroniqueuse chez Ami Télé, conférencière, consultante en accessibilité, gestionnaire en inclusion, diversité, équité et accessibilité chez INENSEA, juriste et surtout personne aveugle. Imaginez devoir surmonter un parcours semé d'obstacles invisibles chaque jour, simplement pour accomplir des tâches de base. C'est une réalité que vivent des millions de Canadiens en situation de handicap, bien souvent dans l'indifférence générale. Aujourd'hui est une journée comme les autres. Comme plusieurs matins, je me rends au bureau. Tout d'abord, en sortant de chez moi, je me retrouve face à une rue complexe et non sécuritaire. Il n'y a aucun dispositif sonore pour m'aider à traverser. Résultat, je dois demander de l'aide. Une fois de l'autre côté, je monte dans un autobus. Les arrêts ne sont pas annoncés vocalement. Peut-être que le volume a été baissé par quelqu'un qui trouvait les annonces gênantes. Je suis obligée d'utiliser un outil supplémentaire ou de demander de l'aide au chauffeur pour être certaine de descendre au bon endroit. Heureusement, l'arrêt n'a pas été déplacé à cause de travaux. Sinon, je devrais me débrouiller pour retrouver ma route en affrontant peut-être d'autres obstacles imprévus. En descendant au bon arrêt, vous voilà rassurée, je décide de m'arrêter dans un restaurant rapide pour m'acheter un café. Dès mon entrée, je me heurte à un guichet libre-service qui ne dispose pas de synthèse vocale. Après quelques précieuses minutes et une bonne dose de patience, je me rends au comptoir. Là, un autre obstacle. Le terminal de paiement est entièrement tactile. Je ne peux entrer mon NIP sans assistance. Si je donne mes informations à une autre personne, je me rends vulnérable en cas de fraude. Heureusement, je peux payer sans contact avec mon téléphone. Mais pour une transaction plus importante, cette option ne serait pas possible. Finalement, j'arrive au bureau. Mission accomplie. Mais il n'est que 9 heures et je suis déjà épuisée. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui encore, je devrais me heurter à des sites web inaccessibles, à des appareils électroménagers que je dois dompter ou, pire, je devrais expliquer ma situation à un fonctionnaire qui n'y comprendra rien. Car oui, je suis une personne aveugle et comme beaucoup d'autres, je suis résiliente. Je franchis ces obstacles jour après jour sans me plaindre outre mesure. L'accessibilité, un mot galvaudé. En cette Journée internationale des personnes handicapées 2024, je me rends compte d'une chose qui me sidère toujours, le mot « accessibilité » est utilisé à toutes les sauces. On parle d'accessibilité des soins de santé, alors qu'il s'agit souvent d'accès. On mentionne l'accessibilité des logements, mais on parle surtout de leur prix. Ne vous méprenez pas, je ne blâme personne. Mais aujourd'hui, j'aimerais que cette journée ne soit pas une journée comme les autres. J'aimerais que nous cessions collectivement de détourner ce mot pour des réalités bien différentes. Une étude canadienne récente a révélé que 27 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus vivent avec une situation de handicap. Cela représente près de 8 millions de personnes. Il est temps que l'accessibilité soit reconnue pour ce qu'elle est vraiment, la possibilité pour une personne, quelles que soient ses capacités, de bénéficier des mêmes services, outils et opportunités que les autres. L'accessibilité, c'est offrir une expérience de qualité dans l'autonomie et la dignité. Une vision pour l'avenir. Quand l'accessibilité est intégrée, tout le monde y gagne. Imaginez avoir l'assurance que tous les arrêts d'autobus soient systématiquement annoncés vocalement, ce qui offrirait une expérience plus fluide, non seulement pour les personnes aveugles, mais aussi pour quiconque emprunte un trajet inconnu ou souhaite éviter les erreurs de destination. Ou encore, des passages piétons sonores qui sécurisent la traversée de tous, y compris des parents avec poussettes ou des aînés. Ces changements ne demandent pas de miracle, mais une volonté collective. En 2024, il est temps de comprendre que l'accessibilité n'est pas un luxe, mais une nécessité. J'espère que cette journée nous rappelle que bâtir une société inclusive commence par une réelle prise de conscience. Ensemble, ouvrons les yeux sur les réalités que vivent tant de personnes autour de nous. C'était un parcours matinal sans rien voir, un texte de Catherine Houd, paru le 3 septembre 2024 dans la presse.
Quand la fin devient un nouveau départ pour l'éolien. Un texte d'Éric Bosco et Annie Levasseur paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir. Le projet éolien des neiges, annoncé par Boralex, Hydro-Québec et Énergir, est ambitieux et porteur de nombreuses promesses. Il s'inscrit dans une démarche nécessaire de transition énergétique. Il est essentiel de saluer cette initiative qui contribuera à réduire notre empreinte environnementale. Cependant, il est impératif de souligner un enjeu qui pourrait freiner le déploiement massif de l'énergie éolienne, la gestion des pales en fin de vie. Ces géants de l'énergie renouvelable posent aujourd'hui un défi environnemental considérable. Le manque de solutions de recyclage efficaces constitue un frein majeur, voire un paradoxe dans notre quête d'un avenir plus vert. De plus, afin d'assurer leur bon fonctionnement et d'éviter de réduire leur durée de vie, les éoliennes devront résister aux événements météorologiques extrêmes dont la fréquence et l'intensité iront en augmentant à l'avenir. Il ne faut pas se contenter de construire des éoliennes, mais il faut aussi penser l'ensemble du cycle de vie de ces infrastructures. Nous devons absolument intégrer, dès la conception de ces projets, des stratégies d'économie circulaire et d'adaptation au changement climatique. Contribuer à une transition énergétique plus juste. Mais la valorisation des pales d'éoliennes ne se limite pas qu'à des considérations environnementales et économiques. C'est également une question d'acceptabilité sociale. En démontrant que nous sommes capables de gérer de manière responsable le cycle de vie complet des éoliennes, nous renforçons la confiance des citoyens envers les énergies renouvelables et facilitons le déploiement de nouveaux projets. Les initiatives de recherche et les projets industriels qui visent à valoriser les pales d'éoliennes contribuent ainsi à une transition énergétique plus juste et plus équitable. C'est là que réside l'occasion, en faisant de ce projet un modèle, en associant dès le départ les chercheurs, les scientifiques et les acteurs de l'économie circulaire, nous pourrons développer des solutions innovantes et pérennes pour gérer les pales en fin de vie. En valorisant un déchet industriel pour en faire une nouvelle matière première, nous créerons de nouveaux emplois, diversifierons notre économie et renforcerons notre position de leader en matière d'innovation. En agissant ainsi, nous ne ferons pas seulement progresser la filière éolienne, nous enverrons également un signal fort à l'ensemble de la communauté scientifique et industrielle. L'heure est à l'innovation, à la recherche de solutions durables pour les défis environnementaux d'aujourd'hui. Il faut donc saisir cette occasion unique de faire de ce projet éolien un véritable laboratoire d'innovation, un modèle de développement responsable qui inspirera bien d'autres initiatives. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un écosystème de l'innovation où les idées les plus audacieuses trouvent un terrain fertile pour se développer. Le projet éolien présenté aujourd'hui peut être le catalyseur de cette dynamique en démontrant qu'il est possible de concilier développement économique, innovation et protection de l'environnement. C'était « Quand la fin devient un nouveau départ pour l'éolien », un texte d'Éric Bosco et Annie Levasseur paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir.
Le hockey professionnel féminin, plus d'un siècle de passion, un texte d'Éric Martel, paru le 3 septembre 2024 dans La Presse. Des partisans entassés dans les gradins, de nouvelles idoles, une attention médiatique inédite. Non, il n'est pas question ici de la Ligue professionnelle de hockey féminin, LPHF. Plus d'un siècle avant son arrivée, le hockey féminin causait l'émoi à Montréal lors de la Première Guerre mondiale. La Ligue professionnelle de hockey que l'on voit aujourd'hui, elle ne sort pas de nulle part, rappelle l'historien et directeur de l'atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Olivier Dufresne. Mais si on comprend bien cette histoire-là, on peut comprendre ce qui se passe dans le hockey féminin d'aujourd'hui avec plus de finesse, ajoute-t-il. À la fin du 19e siècle, le sport féminin est peu encouragé. Par exemple, l'ancien président du Comité international olympique, Pierre de Coubertin, s'oppose à la participation des femmes aux Jeux olympiques modernes en 1896. Dans la même veine, l'Église catholique s'y oppose. Selon l'Église, le rôle des femmes n'était pas de jouer ou de s'amuser, mais plutôt d'avoir des enfants, de se concentrer sur la famille, rappelle Olivier Dufresne. L'arrivée de la Première Guerre mondiale renverse la tendance. Comme dans les usines, les femmes remplacent les hommes partis au front. Tout débute avec l'entreprise Bell, qui présente une ligue mettant en vedette 6 équipes formées de téléphonistes. Elle porte le nom de ses 6 centrales téléphoniques. À l'Aréna Mont-Royal, les partisans se présentent en grand nombre pour assister à ces parties. Les journaux décrivent chaque rencontre le lendemain. La Ligue ne durera qu'un hiver, mais connaîtra un succès fracassant. Elle mettra la table pour le hockey féminin professionnel, qui arrivera l'année suivante. Les Dames de l'Est. Dans le quartier Hochelaga, un patinoire, c'est ainsi qu'on nommait les patinoires à l'époque, est inauguré en 1908. Le Jubilé. Propriétaire de l'équipe professionnelle masculine des Wanderers, en veilleuse avec la guerre, Patrick J. Doran tente par tous les moyens de rentabiliser son aréna. L'idée de fonder une ligue féminine, qui sera surnommée les Dames de l'Est par les médias, lui vient à l'esprit. L'historien Olivier Dufresne rappelle que l'objectif était carrément de faire des revenus. Les propriétaires n'avaient pas d'idéal féministe, ça, c'est certain. Le premier match officiel sera tenu le 13 décembre 1915. Les Maisonneuve Stanley affronteront le Western, tandis que le Télégraphe s'opposera au North End Stanley. D'autres matchs féminins ont eu lieu dans le passé, mais celui-ci revêt une importance particulière. Pour la première fois de l'histoire, les joueuses sont rémunérées. On ignore cependant le montant qu'elles recevaient pour chaque partie. En se basant sur la capacité de l'aréna et sur le prix des billets, l'historien Michel Vigneault déduit toutefois que les joueuses pouvaient empocher environ 1 000 $ pour une saison de 10 matchs. En tenant compte de l'inflation, cela revient à environ 20 260 $ d'aujourd'hui. Sachant que les ouvriers de l'époque étaient payés 500 $ par année, ce serait un bon salaire, estime le chargé de cours en histoire de l'activité physique à l'UQAM. Chose certaine, les dames de l'Est attiraient les foules. La capacité du jubilé était de 3200 places, mais comme il était composé de bancs et non de sièges, environ 5000 spectateurs pouvaient s'y entasser à chaque partie, explique Michel Vigneault. Les spectateurs déboursaient entre 25 et 75 sous pour assister au match en 1917. Les gens avaient besoin de divertissement pour oublier la guerre, indique M. Vigneault, pour justifier la popularité de la Ligue. C'est un peu le même phénomène qui est arrivé avec Maurice Richard dans les années 1940, dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque des matchs d'exhibition sont disputés contre l'équipe de Cornwall, la compagnie des tramways doit mobiliser plus de wagons tellement l'enthousiasme des partisans est fort. Au début de la saison 1916, la Ligue des Dames de l'Est compte 4 équipes. Elle en ajoute peu après une cinquième, le Hochelaga, composé uniquement de joueuses francophones. Vous écoutez Le hockey professionnel féminin, plus d'un siècle de passion, un texte d'Éric Martel, paru le 3 septembre 2024 dans la presse. Cette nouvelle équipe détonne, car la plupart des joueuses du circuit sont des femmes anglophones, bourgeoises et protestantes. Des femmes davantage émancipées des préceptes de l'Église catholique. Du lot émerge une vedette francophone, Agnès Vautier. La hockeyeuse se distingue puisqu'elle vient d'un milieu populaire, mais surtout par ses prouesses sur la glace. Menée par elle, le Western, qui porte les mêmes couleurs que l'équipe masculine des Wanderers, remporte les championnats de 1916, 1917 et 1918. Dans les quotidiens, Vautier est comparée à des vedettes des Canadiens de Montréal, comme Newsy Lalonde, Didier Pitre. Les joueurs du CH, eux, font partie des nouveaux amateurs du hockey féminin, si bien qu'ils se déplacent au Jubilé pour assister à quelques parties. Vautier est reconnue comme la meilleure joueuse avant qu'elle ne trouve chaussure à son pied. Lors de 2 matchs contre l'équipe de Cornwall, une nouvelle recrue franco-ontarienne s'illustre, Albertine Lapensée. Lapensée est si dominante que les accusations fusent. Des accusations qui ont de quoi rappeler une certaine boxeuse algérienne, source de plusieurs ragots plus d'un siècle plus tard. Lapensée était tellement bonne qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle était un garçon déguisé en femme, raconte M. Dufresne. Un journaliste du Montreal Star va même se rendre à Cornwall pour enquêter à savoir s'il s'agit vraiment d'une femme. Dans des circonstances complètement inconnues, Lapensée disparaît en 1917. Son départ coïncide avec la montée de la violence au hockey féminin. Les lancers de bâtons, les bousculades et les disputes entre les joueuses sont de plus en plus fréquents. 4 joueuses sont carrément expulsées du circuit en raison de leur jeu violent. L'augmentation de la violence rime avec une réduction de l'intérêt des médias envers la Ligue des Dames de l'Est. Avec le retour des hommes, en 1918, la Ligue disparaît carrément. D'Albertine à Sarah, l'Université McGill demeurera une pépinière de joueuses de hockey dans les années 1920. Mais dans les années 1930, le programme sera abandonné dans la foulée de la crise économique. Le hockey féminin connaîtra une période creuse jusqu'en 1980. Et encore, les femmes se battent toujours aujourd'hui pour vivre de leur sport. Montréal aura connu les Canadiennes de 2007 à 2019, la Force de 2022 à 2023, puis sa nouvelle équipe sans nom, fondée en 2023. Plus d'un siècle aura passé, mais le sport féminin se base en partie sur les mêmes stratégies de marketing. Si Albertine Lapensée et Agnès Vautier faisaient déplacer les foules au début du 20e siècle, c'est maintenant au tour de têtes d'affiches comme Marie-Philippe Poulain et Sarah Nurse de le faire. On le voit au basketball avec Caitlin Clark. C'est le gros nom qui vend. Même ceux qui ne connaissent rien au basketball féminin la connaissent. C'est certainement un grand facteur de succès, conclut Olivier Dufresne. Quels que soient les facteurs de succès de la LPHF, l'histoire nous aura appris une chose. Le hockey professionnel féminin peut repartir aussi vite qu'il arrive, d'où l'importance de ne rien tenir pour acquis, malgré les avancées retentissantes des derniers mois. Un passage à Hochelaga. L'année 1918 marque la fin du hockey professionnel féminin, mais aussi le retour des Canadiens de Montréal à l'Aréna du Jubilé. Le domicile du tricolore, l'Aréna Westmount, est la proie des flammes le 2 janvier 1918. L'équipe migre donc au Jubilé, l'aréna dans lequel elle avait disputé ses 3 saisons inaugurales. C'était le hockey professionnel féminin, plus d'un siècle de passion, un texte d'Éric Martel, paru le 3 septembre 2024 dans la presse.
Députés et organismes réclament que la RAMQ couvre aussi les immigrantes enceintes. Un texte de Lisa-Marie Gervais, paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir. La femme enceinte doit être prise en charge, peu importe son statut. Pour Pénélope Boudreau, infirmière et directrice des opérations au sein de Médecins du Monde Canada, ce cri du cœur d'une ex-patiente immigrante devrait résonner comme une évidence aux oreilles du gouvernement. D'autant que, ces jours-ci, cette demande maintes fois formulée et qui fait consensus dans le milieu de la santé est au cœur d'une offensive portée par 2 partis d'opposition. Une pétition de plus de 3000 signatures parrainée par le Parti libéral et un projet de loi de Québec solidaire sont sur le point d'être déposés à l'Assemblée nationale. L'offensive s'adresse au ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a décidé de maintenir le statu quo bien qu'un comité interministériel lui recommande de rendre admissible à la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, toutes les femmes à statut précaire qui n'ont pas de couverture médicale. Après tout, le ministre avait dit oui pour leurs enfants, qui sont maintenant couverts depuis 2021. Pourquoi pas elles? La situation de ces femmes se dégrade. On en est témoin à chaque jour, poursuit Mme Boudreau, qui défend le dossier avec vigueur. Avant, on avait quelques cas plus difficiles, mais là, chaque femme se présente avec de multiples complications souvent liées à son statut, comme de la violence conjugale, très peu de revenus et des enfants à charge. Dans un contexte de crise du logement et de hausse des prix, ça s'aggrave. Selon l'Institut Sherpa, quelques 50 000 personnes vivraient au Québec sans couverture de santé en raison de leur statut migratoire. Parmi elles, de nombreuses femmes enceintes qui n'auront aucun suivi de grossesse et qui devront débourser des milliers de dollars pour leur accouchement. 1 000 $ pour une péridurale. Venue de la Guinée pour étudier, Aïcha quittait son vrai nom pour ne pas nuire à ses démarches d'immigration en cours, était enceinte de près de 7 mois à son arrivée au Québec. N'étant pas admissible à la RAMQ et n'ayant pas de couverture médicale privée, qui d'ailleurs n'inclurait pas les soins reliés à une grossesse, elle n'a jamais pu avoir d'échographie. Je me disais, si mon bébé doit naître vivant, il naîtra vivant. La clinique de médecins du monde lui avait fait passer des examens sommaires, mais pas d'échographie, puisque l'accès à un radiologiste et à l'équipement n'y est que sporadique. Sur le point d'accoucher, Aïcha s'est empêchée d'aller à l'hôpital dès les premières douleurs, freinée par les milliers de dollars qu'allait lui coûter cette admission. Lorsqu'elle s'est finalement présentée, on lui a d'abord demandé d'acquitter les frais de son hospitalisation. « J'étais tellement dans l'angoisse, je n'avais même pas un dollar sur moi », raconte-t-elle. Après des appels à plusieurs amis, l'un d'eux aurait fait un virement directement à l'obstétricienne, puisque c'était la fin de semaine. Même chose pour les 1 000 $ apparemment requis pour la péridurale, versés directement à l'anesthésiste. Je n'en pouvais plus. Je l'avais demandé à 11 h, mais je ne l'ai eu que 4 h plus tard, quand l'anesthésiste a reçu le virement dans son téléphone. Sa dette est maintenant dans les mains d'une agence de recouvrement. Mais ce qui semble heurter le plus Aïcha, qui est en voie de régulariser sa situation, c'est que le Québec ne fasse pas mieux que son pays. Ça se passe comme dans un pays sous-développé. Crainte de tourisme médical. Pénélope Boudreau déplore que le Québec soit aussi sévère, alors que d'autres provinces et même certains pays d'Europe acceptent de couvrir les soins prénataux et postnataux. Ouvrir les soins aux femmes enceintes, c'est la base. Le réseau des sages-femmes du Québec, qui faisait partie du comité interministériel, dénonce cette fin de non-recevoir. Les femmes qui viennent de donner naissance se retrouvent à risque à cause de cette iniquité-là, a soutenu sa présidente Amélie Jeté. À l'Association pour la santé publique du Québec, on s'inquiète du stress humain et financier vécu par ces femmes et au-delà. Si on regarde ça de façon pragmatique, ça va engendrer plus d'interventions et de complications que le système de santé devra prendre en charge par la suite. C'est un non-sens, indique Anne-Marie Morel, directrice de projet en périnatalité. Au cabinet du ministre Dubé, on dit plutôt craindre les effets pervers de la gratuité de ce type de soins. « Nous sommes très sensibles à la situation des personnes migrantes », a-t-on déclaré. Dans le contexte où la hausse significative de l'immigration temporaire exerce une pression importante sur les services, il est nécessaire d'éviter d'amplifier les situations de tourisme obstétrical ou de créer un précédent qui ouvrirait la porte à des demandes de couverture selon diverses conditions de santé. C'était « Députés et organismes réclament que la RAMQ couvre aussi les immigrantes enceintes ». Un texte de Lisa Marie Gervais, paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir.